Chers amis, Hachem Alechem Tihyu, le Orech Yamim Tovim et Shanim Ne'emim. Poursuivons notre étude de Parashat Beshalach. Donc après que Akadosh Baruch Hu ait donné la manne, là, ils sont à Midbarsin, là il est dit qu'ils vont quitter ce lieu. Alors il est dit là, au début du chapitre 17, il est dit comme ça, Vaïs'o kol adat bene Israël mimidbar sin le mas'em. Et ils ont voyagé, toute l'assemblée d'Israël, les enfants d'Israël, du lieu qui s'appelle Midbar sin, à leurs différentes étapes, les mas'em. Alpi Hachem, selon la décision de Dieu. Et là, voyahanu birfidim. Ils ont campé en un lieu qui s'appelle Refidim. Il est précisé, Ve'en ma'im lishtot ha'am. Il n'y a pas d'eau à boire pour le peuple. Alors il faut savoir que de Midbar Sin à Refidim, il y a entre les deux étapes, deux autres étapes. De Midbar Sin, ils sont partis à Dovka. Et Dovka, ils sont partis à Alouche, et c'est de Alouche qu'ils partent à Refidim. C'est ainsi que ces deux étapes intermédiaires sont mentionnées dans le fait qu'il y a marqué les Mas'aim. Ils ont Vaïs'o, les Mas'aim. Ils ont voyagé, ils ont voyagé pour accomplir les différentes étapes. Et ils sont arrivés, Vayahanu, Refidim. Alors, quelle différence il y a? Alors, dans les deux, il semble que les deux premières étapes ont été rapides. Et là, on voyait Hanou Berfidim, ils se sont installés à Refidim. Donc, de Refidim, c'est là, il y a depuis la sortie d'Égypte, nous savons de par ailleurs qu'il y a que les 42 étapes du désert jusqu'à Arvot Moab, de Ramsès à Arvot Moab pendant les 40 ans dans le désert, donc il y a 42 étapes, comme c'est indiqué dans Parashat Masé. Donc ils partent, et ce que ça correspond, chaque étape correspond au nom Anna Bekoar Gedula Teminecha Tatir Tserura. Donc c'est le fameux Alatfila de Rabbi Nahman Ben Akana, où il y a 7 versets, et chaque verset est composé de 6 mots. Donc, à chaque mot correspond une étape. Anna correspond à Ramsès, Bekoar c'est Sukkot, Gedola c'est Etan, Yemilhatatir Terura c'est Piahirot, Mara et Elim. Et le deuxième pasouk c'est Yamsouf, c'est Kabel Rinat Ammecha, Yamsouf, Midbarsin, Dovka, Tzagvenut Ta'arenu Nora. Alouche, Refidim, et après ils viseront à Midbar Sinai. Donc il y a, donc on est ici à la 11e étape de la sortie d'Égypte, Refidim. Alors le deuxième passage que nous avons cité, Kabel Rinat Amecha, Sagvenu Ta'arenu Nora, il est écrit Kufresh Aïm, c'est Kera. Et Shin, Tet, Nun, c'est Satan. Donc il s'agit d'affaiblir ici les rigueurs, de les modérer, de les adoucir. Donc cette Refidim correspond au milieu du nom de Sitracha qui est mentionné ici. Le Satan, il a sa force. Et nous savons que le Satan, Il est la force, c'est l'ange, il s'appelle Nahash. Alors il y a deux Shin, il y a un Shin, Alouche, alors Shin c'est Alouche, et Midbar Sin c'est le Nun, Shin Nun. Le milieu c'est le Tête, c'est là où il tire ses énergies essentielles. Et le Nahash aussi, Nun, Het, Shin, le Nun c'est le Nun Shin, c'est les deux lettres extérieures. Sans les dents les forces extérieures de la force extérieure du Sitracha. Et à l'intérieur, il y a un Het. Donc, Het et Tet, en vérité, Het et Tet, c'est 17, ça fait Tov. C'est là où il tire ses énergies fondamentales, essentielles. Et les dents, Shin, donc c'est ce qui est marqué que le venin du serpent, il est entre ses dents. C'est ce que la Gemara dit. Donc entre les dents, il y a le venin du serpent. C'est pour cela que c'est ici, à Rephidim, que le venin du serpent s'exprime de sa puissance. Et c'est ce venin-là, il intervient et il affaiblit Am Israël. Donc c'est pour ça qu'à Rephidim, qui est la 11e étape, il y a une nécessité de réparer. Alors qu'est-il dit ? Vaïsou koladat bene Israël Midbar Sin. Donc ils étaient forts de ce qu'ils ont vécu à Midbar Sin. À Midbar Sin, ils ont vu le prodige de la promesse faite par Hachem de leur donner jour après jour, la manne le matin et l'écaille, la viande le soir. Donc ils sont forts de ça. Et ils se mettent en route. Donc quand ils se mettent en route, on quitte une situation. C'est une progression en fait. Les étapes sont une progression. Donc ils quittent cette progression-là. Et donc ils sont forts de cette situation-là. Ils ont emmagasiné des énergies. Ils ont raffermi et renforcé leur émouna et ils avancent. Mais quand ils arrivent à Rephidim, ils se posent. Voya Hanou Birfidim. Et là, nous dit la Gemara que Rephidim, c'est un lieu qui n'existe pas en fait. Le lieu où ils campent est plutôt le nom qui lui est attribué et traduit l'état d'esprit dans lequel ils ont campé. Donc ils se sont relâchés. Rephidim signifie le relâchement. Et c'est pour cela qu'il y avait un maïm. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. L'ishtotam. Les commentateurs s'interrogent sur la formulation. Il aurait dû dire. Plusieurs questions se posent. Ve'en maïm. Il était suffisant de dire il n'y a pas d'eau. On remarque que quand Myriam meurt dans Parashat, dans Bamidbar, quand ils sont en Kadesh, alors là-bas il y a marqué Myriam est morte, c'est Ve'en maïm. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas marqué, il n'y a pas d'eau à boire, il n'y a pas d'eau à boire pour le peuple. Donc c'est la première remarque. Ve'en maïm. Deuxièmement, il dit, pourquoi il est dit, ve'en maïm lishtot ha'am. Il n'y a pas d'eau pour boire pour le peuple. Il aurait dû dire, ve'en maïm la'am lishtot. C'est comme ça qu'on aurait dû dire, on aurait dû mettre ha'am avant lishtot. Ve'en maïm, il n'y a pas d'eau pour le peuple pour qu'il puisse boire. C'est comme ça que la formulation normale. Alors on dirait alors notre deuxième commentateur que certainement il y avait de l'eau. Farshim dit il y a de l'eau, c'est certain qu'il y a de l'eau. Mais cette eau-là ne donne pas satisfaction au peuple. Ven Maïm, s'il n'y avait pas d'eau du tout, alors on a dit Ven Maïm. Mais ici il a dit Ven Maïm Lishtot. Lishtot, Aham, c'est-à-dire il y a de l'eau à boire, mais il n'y a pas de l'eau à boire pour le peuple. Le peuple n'est pas satisfait de l'eau qu'il a à boire. Il réclame une autre eau, quelque chose de différent. Une eau qui puisse le satisfaire et épancher sa soif. Donc c'est une eau, il y a une eau, mais il demande une eau d'une autre dimension. C'est-à-dire que ils mangent la manne. Et la manne nécessite, donc la manne purifie le corps. Maintenant, ils boivent de l'eau habituelle, de l'eau courante, de l'eau ordinaire. Et cette eau-là ne correspond pas à ce qu'ils espèrent. Ils espèrent une autre qualité d'eau. Ils espèrent une qualité d'eau telle que de la même qualité que la manne, le pain. Donc ils sont conscients, quand ils mangent la manne, qu'ils atteignent un niveau. Seulement l'eau qu'ils boivent, est une eau ordinaire de ce monde ça ne correspond pas à ça ne leur donne pas satisfaction. Ils n'arrivent pas à épancher leur soif. Donc c'est pour ça qu'il est dit, parce qu'il est dit ve'en ma'im lishtot ha'am. Après il dit va'yarev ha'am an Moshe. Donc le peuple s'en est pris à Moshe, ils se disputent. Alors il lui dit, voyons-nous, tenez-nous là nous mêmes, donnez-nous de l'eau. Il est marqué, c'est étonnant, il lui dit, voyons-nous, il se dispute avec Moshe, il lui dit, donnez-nous de l'eau. Pourquoi il parle au pluriel à Moshe? Il leur dit, tiens là nos maïs, Vélisté, donne-nous de l'eau que nous puissions boire. Il était suffisant de dire, tiens là nos maïs. Pourquoi tiens-nous là nos maïs, Vélisté, que nous puissions boire, que nous buvions, qu'on boive. Voyons, mais Allah et Moshe, ma terrivone, il m'a dit, pourquoi vous disputez avec moi? Pourquoi mettez-vous à l'épreuve Dieu? Ma tenasun est Hachem. Pourquoi mettez-vous à l'épreuve? C'est quoi cette mise à l'épreuve de Dieu? Qu'est-ce que ça signifie? Il dit, pourquoi vous disputez avec moi? Et pourquoi mettez-vous Dieu à l'épreuve? Si vraiment il n'y a pas d'eau, c'est normal qu'il se plaigne. Tu nous as amenés ici, on n'a pas d'eau. Et quel est le sens de mettre à l'épreuve Dieu? Vayitzma Hashem ha'am la'mayim. Le peuple avait soif d'eau. Vayalen ha'am al Moshe. Le peuple s'est rassemblé autour de Moshe toute la nuit. Vayomer. Et donc ils l'ont agressé. Ils ont mis la pression. Ils ont fait des réclamations continuelles. Vayomer lamazé ailitoun. Alors pourquoi vous nous avez fait monter d'Égypte pour nous faire mourir ici? Moi et mes enfants et mon bétail par la soif. Alors à ce moment-là, il dit Vaïsak Moshe El Adonai les morts ma esela amazé. Od meyatus kaloni. Qu'est-ce que je dois faire à ce peuple? Ils vont bientôt sur le point de me tuer. Menachem El Moshe. Donc il y a ici une dimension particulière. Le peuple éprouve que l'eau, il ressent que l'eau qu'il boit, elle n'est pas suffisante. Elle donne pas satisfaction. Donc, ils réclament une madriga. Ils se plaignent, c'est un combat. Ils se sont certes relâchés. Donc, c'est-à-dire que le relâchement qu'indique le terme rifidim, parce qu'ils ont campé, voyez, Hanou, donc ils se sont posés tout d'un coup, ils se sentaient un peu et prendre des vacances, ils sont reposés. Donc, ce relâchement-là, il a causé qu'il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau qui leur donne satisfaction. Donc, ils s'en prennent à Moshe. Tout d'un coup, l'eau ne leur donne pas satisfaction. Et jusqu'à présent, ils ne se sont pas plaints. Vayatsma, donc, le peuple avait soif de cette eau. Donc, ils réclament quelque chose d'autre. Donc, en vérité, l'eau a perdu sa madriga du fait que le peuple s'est relâché. Alors que Moshe, il sait pas quoi faire, a priori. Alors, quand il prie, va yitzhak Moshe el Hashem. Moshe, c'est à prier Dieu. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, regardons ce que dit Akadosh Baruch Hu. Va yomer Hashem el Moshe, avor lifne ha'am. Il y passe devant le peuple et prend avec quelques anciens d'Israël avec le bâton avec lequel tu as frappé le fleuve. Alors il dit ineni omed lefanecha sham al atzur. Donc il lui désigne un rocher. Ineni omed lefan, voici je me tiens devant toi là-bas sur le rocher. Vikita batzur, et tu frapperas le rocher. Et il en sortira de l'eau. Chacun aime le peuple boira. Voyez à ce qu'est Moshe le Nézik l'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors ici il y a une yane comme ça. Le peuple est dans. À supposer que le peuple n'a pas d'eau. Le peuple est en manque. La situation. Donc il n'y a pas d'acquis en fait. On doit comprendre la leçon que nous avons appris jusqu'à présent, c'est que les étapes de la sortie d'Égypte, au fur et à mesure des étapes, ils apprennent, les Bnei Israël sont en apprentissage de réaliser la Emouna. Donc avec l'histoire de la manne qui tombe jour après jour, et ce qui est tombé aujourd'hui, ce qui n'est pas consommé, est détruit, et le lendemain il y aura une nouvelle production, jour après jour. C'est-à-dire que la manne d'aujourd'hui ne ressemble en rien à la manne qui est d'hier, et la manne de demain ne ressemble pas à la part qui sera donnée aujourd'hui. Donc à chaque jour, il y a son énergie particulière. Alors là, cette leçon-là, elle doit être appliquée, elle doit nous, au sujet de l'eau, donc au quotidien. Donc Quand on voyage, on doit partir avec cette énergie-là. Il faut savoir que quand on voyage, on quitte une position. Donc là, à Midbarsin, ils ont appris, ils sont forts de cet enseignement, mais ils quittent cette situation-là. Donc ils doivent l'emmener avec eux. Comment ils doivent faire en sorte que ça se répercute tout au long et ça se continue dans le voyage, c'est avec grâce à la tefila. Donc dès qu'on se relâche, ce bénéfice, ce patrimoine, ces énergies sont perdues. Donc qu'est-ce qu'il lui dit? Il faut prier. Il faut prier au quotidien. Donc l'exemple donné ici, c'est ici la description qui est faite ici de comment Moshe, ce que Kadosh Baruch Hu indique à Moshe, de prendre le bâton, de se placer devant le rocher, de lever le bâton et de frapper le rocher. Et en lui disant, je suis devant toi, Mineni Omer, je me tiens debout devant toi, là-bas sur le rocher. C'est exactement la position que nous avons lors de la prière. Donc nous sommes en situation de manque. Tout d'un coup, nous sentons qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous n'avons pas su, tout allait bien, et nous n'avons pas su continuer, prendre ce bien et le perpétuer, le faire continuer. Alors nous sommes en situation de manque. Alors il s'agit de prier, il faut prier. Alors comment on prie? On prie devant Hachem. Alors le bâton, l'exemple du bâton, alors quand on lève, alors, le bâton avec lequel Moshe il va frapper le rocher, d'abord il le lève, et après il le redescend. Et il est dit ici, et de l'eau, il en sortira de l'eau. Lors de Kadesh, quand il y a marqué, tu prends le rocher, tu prends le bâton et tu parleras au rocher, il est dit là-bas qu'il n'y a pas de l'eau qui en sortira. Il y a marqué que le rocher donnera ses eaux. Là-bas, il y a marqué que l'eau était contenue dans le rocher. Ici, il n'y a pas marqué que le rocher donnera ses eaux. Il y a marqué qu'il sortira de l'eau du rocher. En vérité, le rocher ici ne contient pas d'eau. Le rocher est une roche vide d'eau, sèche. C'est de la roche qui a pas d'eau. Alors, comment on va faire que le rocher donne de l'eau? Alors, parce qu'on fait la tefila. Alors, c'est quoi la tefila? Et alors, d'abord, on lève le bâton vers le haut. On lève le bâton avec une certaine puissance relative. Donc, la tefila, c'est ce qu'on appelle la montée Itaruta Deltata. Qu'en faisant la prière, en implorant la miséricorde divine, en priant, suppliant, on fait monter des énergies vers le haut. Donc, ces énergies-là, sont imagés par le fait que Moshe lève son bâton vers le haut avant de le rabattre. Et quand il le rabat avec beaucoup plus de force. Donc ça veut dire ces énergies-là qui montent vers les sommets l'imploration, la prière, sont amplifiées, sont récupérées par les Akadosh Baruch Hu dans les cieux. Et sont conjugués et amplifiés pour être redirigés vers le bas. Donc en vérité, c'est les mots de la tchila que nous implorons, qui montent vers le haut. Donc on demande à Kadosh Baruch Hu la santé. Alors les mots que nous prononçons sont des énergies qui contiennent déjà la santé. Mais il faut qu'elles nous reviennent. Nous implorons la santé. Alors ces énergies-là montent vers le haut. Ces mots-là montent vers le haut. Akadosh Baruch Hu s'en saisit, les amplifie et les redescend vers le bas pour accorder la demande. Donc c'est cette idée-là qui est mentionnée quand Moshe rabat le bâton. Et en réalité, c'est en rabattant le bâton avec les énergies qui sont amplifiées que l'eau, qu'il imprime au rocher l'eau. Donc c'est lui qui met l'eau sur un rocher qui contient rien, qui est sec, il met de l'eau, et l'eau jaillit. En réalité, c'est le sens même de la tefila. Et cette image-là, c'est ça, véritablement, la traduction de la prière, elle doit nous accompagner chaque fois que nous levons pour prier. C'est l'image de Moshe qui frappe le bâton, qui frappe avec son bâton le rocher. Yatsu menumaim. Et alors l'eau sortira. Veshata. Alors Moshe a fait, il va écraser ma makom massa omriva. Donc eux ils ont fauté. Quelle est la faute? Massa c'est la mise à l'épreuve, meriva c'est la dispute que Bnei Israël ont mis à l'épreuve et ont disputé avec Akadosh Baruch Hu et Moshe. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ayesh Hashem bikirbenu imay. Ils ont dit, est-ce que Dieu est parmi nous ou non? Alors ici les Mkubalim, les frères, les Mfarshim, ils expliquent qu'il y a deux conduites du monde. Il y a une conduite relative, celle qui s'exprime par le Shem Havaya. Donc c'est un certain niveau de conduite. Et ici, eux, c'est ce qui est indiqué, c'est-à-dire qu'il y avait de l'eau. Mais l'eau qui était là, elle n'était pas suffisante. C'est-à-dire l'eau ne correspondait pas à la madriga de la manne. C'était une eau ordinaire. Donc c'est une certaine conduite. Ce qu'on appelle la conduite de Zeiranpin. Donc c'est comme si c'est le vav du Sheba Havaya qui les conduit. Im'aïn, eux, ils voulaient avoir plus haut. C'est-à-dire, ils voulaient avoir que la conduite, elle soit de Aïn. Aïn, c'est le néant. Aïn, c'est les trois sphirotes qui sont les plus éminentes et les plus élevées. Le Aleph fait référence au Keter, au Kutso chez Lyoud, à la pointe du Yod, du Shem Havaya, qui est imperceptible. Au Yod lui-même, qui est la Chochma. Et le Nun, qui est la Bina. Donc, il fait référence à la conduite la plus élevée, c'est de là où la conduite la plus élevée qu'on appelle Atika Kadisha, celle qui a permis la ouverture de la mer. Donc c'est de ce niveau-là qu'ils réclamaient la présence et la présence divine, la conduite. Ils voulaient une conduite qui dépasse la conduite normale. Et c'est ce qu'ils obtiennent. En vérité, ils obtiennent ça. De manière que la manne est de la même qualité. Donc, ils veulent le lot de la même qualité que la manne qui leur est octroyée. Et c'est ça ce qu'ils obtiennent. En fait, en vérité, ils obtiennent. Et immédiatement, il est précisé que on a mentionné, la Torah mentionne leur erreur, leur faute. Elle mentionne leur faute. Et de suite, va venir Amalek. Pourquoi il est mentionné la faute? Comme ça, c'est comme si qu'ils ont reçu leur, que Amalek ne jouisse pas de la faiblesse d'Israël et de sa faute. Donc, c'est comme si que, on a conclu un sujet. On a conclu l'erreur d'Israël et la faute a été sanctionnée. Le fait de mentionner cela fait que la faute a été sanctionnée. De sorte qu'on ne tienne plus rigueur à Israël pour l'épisode qui va suivre. Donc ici, c'est cette idée-là que nous devons adopter, pratiquer. C'est ça le sens même de la Emouna, la confiance en Dieu fait que on peut penser à un moment que Dieu nous s'est retiré, on est livré à nous-mêmes. Et alors pourquoi Dieu n'agit pas au quotidien de manière naturelle, facilement? Quand je vous crois, tant compris. C'est-à-dire que même ce qui doit nous revenir, en vérité, cette eau-là leur était destinée. Et même ce que nous devons recevoir, nous ne pouvons le recevoir que si nous implorons. Et sans prière, il n'y a rien qui, même ce qui doit être attribué ne le sera pas. Donc c'est ça la leçon. Et comment on doit prier? Comme nous l'avons dit, c'est l'image du bâton qui s'élève et qui se rabat avec puissance. Et c'est le fait de rabattre le bâton avec puissance qui amène les énergies qui font que sur terre, ça prend la forme de l'eau ou de tous nos besoins. La santé, la réussite, etc. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.